Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Dominique Tenza. Bonjour Dominique.
Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous la sentez, l'odeur du petit café en terrasse, celle du basilic déposé délicatement sur une salade tomate mozza, tranquillement attablé au restaurant avec vos amis. Tout cela n'était qu'un rêve jusqu'à présent. Eh bien, c'est désormais possible. Toute cette petite mise en bouche pour vous dire que les bars, les restos, les cafés, ça y est, sont de retour dans nos villes et dans nos campagnes. Même si en Ile-de-France, pour l'instant, seules les terrasses sont accessibles. Bonjour Patrick Tégéraud.
Bonjour Dominique.
Vous êtes à Toulouse avec les premiers clients du Florida Brasserie Historique, place du Capitole, qui vient de reprendre du service après 2 mois et demi de fermeture.
Eh oui, et puis vous savez, c'est pas rien, parce que ces terrasses qui sont revenues sur la place du Capitole ont rendu sa physionomie normale à une place du Capitole qui était un petit peu trop déserte et triste ces derniers temps. Et je suis avec Pascal, il tenait absolument à être le premier client du Florida.
Ben en fait, j'ai l'habitude de venir là tous les matins dans le temps normal, juste avant d'aller travailler. Et là, ce matin, je me suis levé plus tôt pour en profiter. Je suis très en retard au travail, là, mais j'ai pris le temps.
À l'intérieur, il y a les premiers clients de la brasserie qui sont installés sur une petite table à part. Jean-Paul et Noël sont ravis de se retrouver là.
Seulement pressé ce matin de se lever pour être là. On aime cet endroit, on aime y prendre ce petit déjeuner. C'est un symbole.
Seule petite particularité ce matin, les plaques de plexiglas qui séparent les tables à l'intérieur du restaurant.
C'est ce qu'on regardait ce matin, on se disait, bon, elles sont là, il va falloir vivre avec. Mais je pense que c'est possible à l'avenir de devoir cohabiter avec ces nouveaux objets.
Et puis pour Jérémy, qui est serveur ici au Florida, c'est le bonheur de retrouver les clients.
Ah oui, il fallait bien que ça reprenne. Pour le moment, ça va, malgré le masque, mais on va voir comment ça se passe après 10h.
C'est la principale difficulté, le masque.
Exactement, après le reste, on l'a habitué.
On peut pas voir votre sourire?
Eh non, malheureusement non.
Oui, en fait, c'est bien sûr la chaleur que redoute Jérémy. Il fait encore un petit peu gris ce matin, oui. Mais le soleil devrait vite revenir place du Capitole avec les clients en terrasse.
Merci Patrick Tégéraud. Oui. On se faisait la réflexion sur ce petit bruit, oui. Ce bruit si spécifique de ces brasseries, de ces petites tasses. Merci beaucoup Patrick Tégéraud. Autre interdiction qui disparaît, la limitation des 100 km pour se déplacer. Plus besoin désormais d'attestation. Assouplissement rendu possible parce que la situation s'améliore chaque jour un peu plus. Le nombre d'admissions en réanimation est en baisse constante.
RTL, il est 8h. Un compte à rebours, Dominique, maintenant, celui du dépôt des listes pour le second tour des municipales. Ce soir, ce sera trop tard.
Municipal 2020.
À 18h, en effet, tout doit être bouclé. Alors, ça discute programme, ça négocie les places, même si pour certains, le second tour, le 28 juin prochain, s'annonce d'ores et déjà bien mal embarqué. C'est le cas pour les candidats de la majorité. Et dire qu'En Marche espérait, il y a encore quelques mois, rafler les grandes villes qui avaient voté en majorité Emmanuel Macron. William Galibert, on est loin. Très loin du compte.
Oui, des municipales cauchemars. À Paris, Agnès Buzyn a fini par revenir, mais pas l'enthousiasme. Ses propres colistiers parlent maintenant de limiter la casse. Et malgré des mois de feuilleton, le dissident Villani n'est jamais rentré au bercail. Les marcheurs voulaient Bordeaux. Ils se contenteront de figurer auprès de la droite juppéiste. Les marcheurs voulaient exister à Lille. Ils n'ont pas inquiété Martine Aubry. Ils voulaient Marseille. Ils y ont été éliminés dès le mois de mars. Le coup de grâce est venu de Lyon, où le macroniste historique Gérard Collomb vient d'être banni pour avoir pactisé avec la droite de Laurent Wauquiez. À La République En Marche, on n'attend d'ailleurs même pas les résultats du 28 juin pour se lamenter. Une députée lâche un diagnostic façon guillotine. Ce parti ne produit aucune idée et n'est capable d'aucune autorité. Quant à Emmanuel Macron, garde-t-il vraiment un œil sur ce deuxième tour ? Un ministre résume un fiasco acté depuis belle lurette. Pour le président, dit-il, ça fait longtemps que ces élections municipales ne sont plus en sujet.
Un décryptage de William Galibert du service politique de RTL. Il aurait pu, dans un discours, tenter d'apaiser cette nuit la colère qui enflamme l'Amérique depuis plus d'une semaine. À l'inverse, Donald Trump a opté pour la manière forte, menaçant d'envoyer l'armée remettre en ordre le pays. Écoutez le président américain.
J'ai fortement recommandé à tous les gouverneurs de déployer en nombre la garde nationale pour dominer les rues. Si une ville ou un État refuse, je déploierai l'armée pour régler rapidement le problème à leur place.
Donald Trump cette nuit depuis les jardins de la Maison Blanche, alors qu'à quelques mètres, au même instant, les policiers repoussaient les manifestants avec des gaz lacrymogènes. Washington, Los Angeles, Chicago, des manifestations, des émeutes s'y déroulent chaque jour, chaque nuit depuis la mort lundi dernier de George Floyd. Des couvre-feux ont été décrétés dans plus d'une dizaine de villes, dont New York. C'est le premier depuis 77 ans. Il faut dire, Philippe Corbet, que les violences, les pillages de ces dernières heures ont laissé la ville sous le choc.
Oui, des dizaines, peut-être des centaines de magasins pillés, notamment sur Broadway, une grande avenue qui traverse Manhattan du nord au sud. Microsoft, Nintendo, Nike, Sephora, même le grand magasin Macy's, dont les devantures avaient été recouvertes de planches de bois, a été forcé. Des manifestants pacifiques ont tenté d'empêcher le chaos. Ils se sont battus avec des pillards, qui étaient des centaines. Les policiers new-yorkais constatent qu'ils étaient méthodiques. Ce ne sont donc pas des protestataires qui dérapent, mais des gangs très organisés qui profitent de la situation. Ce couvre-feu était une première à New York depuis 1943, et déjà à l'époque, c'était parce que la mort d'un soldat noir abattu par un policier blanc avait déclenché des émeutes.
Philippe Corbet, correspondant de RTL aux États-Unis.
Bière, saucisses grillées, bagarres de rue, quand les Anglais se déconfinent, ils ne font pas toujours dans la dentelle. Mais pour cela, il faudra attendre un petit instant. A tout de suite.
RTL Matin.
Ah, nous sommes heureux de vous accueillir de nouveau chez nous, chez Jouet Club. Alors tiens, pour fêter ça, on vous réserve 15% de remise immédiate sur les jouets de plein air Smoby du catalogue printemps.
Jouet Club.
Du 1er au 10 juin, offre dès 150 euros d'achat, hors frais de livraison à domicile, conditions en magasin.
Et vous, qu'attendez-vous pour aller chez Renault ?
J'ai quelque chose à vous dire, mais c'est très privé. En juin, pendant le mois très privé Renault, nous reprenons votre véhicule jusqu'à 7000 euros en plus de sa valeur.
Et en plus, bénéficiez jusqu'à 5000 euros de prime à la conversion sur nos modèles éligibles.
C'est le moment d'en profiter.
2500 à 7000 euros, exemple pour Coléos, ajouté à la valeur de reprise sur votre véhicule. Offre valable jusqu'au 30 juin sous conditions d'immatriculation dans la limite des stocks disponibles sur toute la gamme Renault Ortwizy et véhicules utilitaires. Voir conditions sur Renault.fr et sur primealaconversion.gouv.fr.
64 ans, et alors ? Hulda ne se laissera pas faire. Détective islandaise hors pair, elle ne va rien lâcher. Dans La Dame de Reykjavik, elle va tout faire pour trouver le coupable, défendre les femmes et se battre contre l'oubli. Découvrez le destin d'une femme hors du commun, forte et fragile à la fois. D'après le New York Times, La Dame de Reykjavik est la meilleure héroïne tragique que nous avons lue depuis longtemps. Une héroïne qui restera dans votre mémoire bien après la dernière page. La Dame de Reykjavik, de Ragnar Jonasson, en poche aux éditions Point.
RTL Matin.
Il est 8h06, c'est le journal de Dominique Tenza. C'est toute l'Europe qui peu à peu reprend une vie normale à l'approche de l'été.
Ouais, chacun déconfine à sa vitesse et l'épidémie semble maîtrisée à peu près partout. Aucune victime recensée en 24 heures en Espagne, par exemple, c'est une première depuis 3 mois. Au Royaume-Uni, ça va mieux même si 8000 personnes contractent chaque jour encore le virus. C'est énorme. De nombreux médecins estiment qu'il est trop tôt pour lever les restrictions. Pourtant, les autorités anglaises ont choisi d'assouplir les règles et d'autoriser le barbecue. Les Anglais en raffolent et dans les parcs de Londres, ça se voit, Marie Billon.
Deux taches noires sur la pelouse du parc de Burgess dans le sud-est de Londres sont la preuve que le retour à la normale a été amorcé. Elles sont la marque laissée par deux plaques de barbecue jetables qui ont brûlé l'herbe. Certains londoniens ont clairement décidé de fêter la fin du confinement strict avec saucisses, steak burger et bière. L'abus d'alcool a d'ailleurs déjà dégénéré en bagarre générale dans un parc voisin.
Il y aura toujours des idiots. J'ai vu des rassemblements très larges autour des barbecues avec la musique à fond. Et je comprends que les gens veuillent revenir à la normale. Mais je pense que ça arrive trop tôt.
Michael et son épouse ont amené leur propre pique-nique et leurs trois amis aussi. Tous sont assis à 2 mètres les uns des autres. Pour Roberta, qui aurait aimé les embrasser, c'est quand même une vraie libération.
Quand on s'est vu, on s'est applaudi pour se saluer. C'est super enfin de voir plus d'un ami à la fois. Je n'ai pas rêvé, ils existent pour de vrai.
Prochaine étape pour ce petit groupe, le barbecue, mais dans leur propre jardin. C'est déjà permis, mais il faut amener sa propre chaise, son assiette, ses couverts et ne pas partager de nourriture. Trop compliqué pour des trouvailles.
Marie Billon, la correspondante de RTL au Royaume-Uni. La croissance affectée encore un peu plus en 2020. Les prévisions étaient jusqu'ici de moins 8%. Le recul du PIB sera finalement de 11%, a déclaré Bruno Le Maire, le ministre de l'économie et des finances, qui est ce matin l'invité de RTL. Il a également annoncé le recul des soldes. Elles démarreront cette année le 15 juillet pour permettre aux commerçants d'écouler une partie de leur stock avant de le brader. Et elles dureront 4 semaines. Même si le championnat de football ne reprendra pas cette saison chez nous, les entraînements, eux, ont pu redémarrer doucement. Ils sont évidemment impératifs pour les sportifs de haut niveau, mais pas facile de réunir des joueurs confinés aux quatre coins de la planète et pour certains encore en vacances. Nicolas Georgerot, ça va se dérouler comment ?
Alors les terrains d'entraînement ne seront pas pris d'assaut aujourd'hui car la très grande majorité des joueurs est encore en congé. Ça va se faire en ordre dispersé. L'OL par exemple lundi prochain, Lille trois jours plus tard. Beaucoup de clubs ensuite entre le 15 et le 25 juin. Au PSG retour le 22. C'est à partir de cette date d'ailleurs que devraient être possibles les contacts, les oppositions à l'entraînement. D'ici là, deux objectifs pour les clubs. D'abord, préparer tous les bilans physiques, les examens cardiaques poussés que vont subir les joueurs, ainsi que la mise en place des tests Covid, puis organiser le retour des Sud-Américains. Paris sur ce point à 5 joueurs dans ce cas, dont Neymar et Thiago Silva. Reste une interrogation, devront-ils observer un isolement de 14 jours avant de reprendre? Ce n'est pas encore tranché. Marquinhos devrait être le premier à effectuer le trajet retour et à s'imposer une quatorzaine.
Nicolas Georgerot. Et puis on apprend ce matin que Mediapro, ce groupe espagnol qui détient les droits de la Ligue 1, a choisi de s'allier en France à TF1 pour créer sa chaîne foot, 100% foot. On ne connaît pas encore le contenu, mais déjà le nom, ça s'appellera tout simplement Téléfoot. Et puis signe de la reprise ce matin, c'est un détail, mais il va parler aux Parisiens et aux Franciliens, le retour des bons vieux embouteillages.
Ça nous manquait.
Et il y avait 200 km de bouchons tout à l'heure à 8h, ça nous avait presque manqué.
Merci beaucoup Dominique Tenza.
RTL Matin, Yves Calvi.
Et comme chaque jour, un gros plan sur un site qui vaut vraiment le détour dans notre beau pays. Aujourd'hui, la Gironde et son incroyable montagne de sable, la célébrissime dune du Pilat, qui accueille chaque année plus de 2 millions de visiteurs. 2 millions, elle est à nouveau accessible depuis quelques jours. On va essayer de percer certains de ses secrets immédiatement avec notre correspondant sur place.
Oui, bonjour Yves.
Bonjour Denis.
Bonjour, on va commencer par des informations de notre guide du jour, il s'appelle Jean-Marie Froidefond. C'est un géologue de 75 ans dont 50 passés sur la dune du Pilat, autant dire qu'il connaît très bien son sujet. Et d'abord la hauteur.
Aux alentours de 108-109 mètres.
Après la hauteur, la nature du sable de la dune.
C'est un sable siliceux, c'est-à-dire formé de grains de quartz.
Et enfin, quel âge a la dune du Pilat?
Cette dune a commencé à se former au cours du 19e siècle, grâce au sable qui se trouvait sur la plage et qui était transporté par le vent jusqu'au sommet.
Alors pour bien mesurer la quantité phénoménale de sable, sachez Yves que la dune est composée de 66 millions de mètres cubes, soit 1 mètre cube par français, donc vous pouvez venir avec une brouette. Bon, enfin c'est interdit hein, de prendre le sable de la dune du Pilat.
C'est sacré. Hein. Alors maintenant qu'on connaît les bases techniques et historiques, on attend l'ascension, Denis.
Alors vous allez voir Yves, je n'ai absolument pas choisi la facilité, même si ce jour-là, c'est vrai, j'étais en short, en t-shirt et pieds.
Elle est beaucoup plus difficile à gravir côté forêt que côté ouest, parce que la pente est plus forte.
Vous ouvrez la voie, je vous suis.
Entendu. On a une vue sur les passes, sur le banc d'Arguin et sur l'océan finalement. C'est vrai que c'est un point de vue absolument magnifique quand il fait beau comme ça. En face de nous, c'est l'Amérique, très au loin, mais on ne la voit pas.
Alors depuis quelques jours, un escalier est à la disposition du public avec 170 marches tout de même. Ça fatigue aussi et bien sûr un sens de circulation et des distances à respecter. C'est la toute première fois dans son histoire que la dune d'ailleurs dispose d'un sens de circulation, même s'il faut bien le dire, près du sommet ensuite ça part un petit peu en live comme on dit et tout le monde se balade.
Et pour finir Denis, un scoop qui risque de faire du bruit chez les chasseurs de trésors. Il se pourrait qu'il en existe un fabuleux en face de la dune dans l'océan.
Oui, dans l'eau de l'océan avec des coffres remplis de diamants et d'émeraudes, un trésor qui aurait disparu lors d'une tempête mémorable qui a décimé une armada de galions portugais de retour des Andes. C'était en 1626.
Ça, c'est une légende. Voilà, c'est une légende. Je ne l'ai pas trouvé. Je peux vous assurer que je ne l'ai pas trouvé.
Voilà, Yves, pour cette balade sur la dune du Pilat. Il ne me reste plus maintenant qu'à aller, non pas planter le drapeau parce que je n'ai pas pris un drapeau pour l'ascension, mais peut-être la perche avec le micro-RTL au sommet de cette incroyable montagne de sable. Je plante la perche, il y aura une photo.
Merci infiniment Denis Grandjou, au pied et ensuite au sommet de la dune du Pilat. On a passé un excellent moment avec vous.